Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Babel Congo Masimango.
L'épidémie d'Ebola à la une de la rencontre hier entre les présidents Tshisekedi et Ndayishimiye à Kinshasa pour le chef de l'État burundais qui est aussi président de l'Union africaine. Garder ses frontières ouvertes à la RDC à l'Ouganda affecté par cette maladie serait une façon pour les autres États de montrer leur solidarité. Un appel appuyé par Félix Tshisekedi qui a promis de se rendre bientôt en Ituri. Dans ce journal aussi, l'alerte de la dynamique d'acteurs pour les questions de la patrie d'INAP sur la montée des cas d'intolérance, des violences et des discours portant atteinte à la cohésion nationale depuis le lancement des démarches liées à une possible révision de la Constitution. Elle appelle chacun à la sagesse et au respect des principes démocratiques. Connaître son statut pour mieux protéger l'avenir, c'est le sens de la campagne de dépistage volontaire de la drépanocytose, l'anémie SS, lancée par le dispensaire de l'ISP Kisangani. Nous en parlons avec notre invité, Dr Rachel Mukangi, médecin traitant au sein de cette structure médicale. Avant de développer ces titres, sachez d'abord que les léopards de la RDC n'ont pas su sortir leurs griffes pour faire mal aux Colombiens. Les Congolais ont perdu leur deuxième match sur le score d'un but à zéro. Une rencontre qui a vu beaucoup de Congolais braver le froid et sacrifier leur sommeil pour être en communion avec leurs représentants à la Coupe du Monde à cause de l'heure tardive à laquelle le coup d'envoi a été donné, soit 3h, heure de Kinshasa. Une situation due au décalage horaire avec le Mexique où ce match s'est joué. Des détails avec Jean Gandou.
La RDC est passée à côté de son rendez-vous face à la Colombie. Dominée dans tous les compartiments du jeu, les Léopards ont subi pendant de longues minutes la pression offensive de leurs adversaires. Sans les interventions décisives du portier Lionel Passy, la défaite aurait pu être bien plus lourde pour son équipe. À force de reculer, les Congolais ont fini par céder. Les Colombiens ont trouvé la faille peu avant le dernier quart d'heure de la seconde période. Durant cette rencontre, la ligne offensive congolaise a été étroitement surveillée au point de laisser le gardien colombien passer une grande partie du match sans être véritablement inquiété. Le premier tir cadré des Léopards n'est intervenu que dans les arrêts de jeu. C'est d'ailleurs dans ces ultimes minutes que les Congolais ont tenté de se projeter timidement dans les camps adverses. Ce sursaut tardif n'a toutefois pas suffi à inverser la tendance. Pour certains analystes, la gestion du match par le sélectionneur national pourrait expliquer cette contre-performance. Cette rencontre semblait pourtant à la portée des fauves congolais qui n'ont pas su imposer leur jeu ni préserver leurs chances de qualification pour le second tour. La dernière journée s'annonce décisive. La RDC affrontera l'Ouzbékistan dans une rencontre déterminante pour tenter de sauver l'honneur dans cette phase de groupe de la Coupe du Monde.
Merci Jean Gandou. Revenons à nos titres. À présent, lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Le président du Burundi et président en exercice de l'Union africaine appelle les États du monde, surtout africains, à faire preuve de solidarité envers la RDC et l'Ouganda en gardant leurs frontières ouvertes. Evariste Ndayishimiye l'a dit ce mardi à la cité de l'Union africaine à Kinshasa au cours d'une conférence de presse conjointe organisée avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi. On l'écoute dans cet extrait que nous propose Alain Hirung.
J'exprime ma solidarité avec la République démocratique du Congo, le peuple congolais. Cette maladie, il ne faut pas la traiter sans avoir confiance à la science. L'exemple que je donne, c'est le Burundi n'a pas fermé les frontières, mais le Burundi n'a jamais été affecté parce que nous devons prendre des mesures de préparation, de prévention et en collaboration avec les organes de la République démocratique du Congo, nous essayons toujours de maîtriser. C'est pour cela que je voudrais saisir cette occasion aussi à appeler tous les États, surtout africains, d'être solidaires et aussi au monde entier d'être solidaires plutôt de nous enfermer. Il faut être solidaire et gérer ensemble cette épidémie qui n'est pas une épidémie qui peut faire peur comme COVID-19. Donc, j'appelle tous les États à ne pas fermer les frontières, mais plutôt à être solidaires en traitant cette maladie ensemble.
Evariste Ndayishimiye, de son côté, le chef de l'État congolais a annoncé sa descente dans les tout prochains jours dans la province de l'Ituri pour s'imprégner de l'évolution de l'épidémie d'Ebola. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit au cours de cette même conférence de presse conjointe organisée hier mardi avec son homologue burundais Evariste Ndayishimiye à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. On l'écoute lui aussi dans cet extrait que nous propose Alain Hirung.
La réunion tenue ce jour avec la Task Force Nationale de Lutte contre Ebola a permis de présenter à mon frère, son Excellence, Monsieur le Président Evariste Ndayishimiye, un état des lieux complet à date de la situation épidémiologique ainsi que des mesures de riposte engagées par notre pays. Nous avons réaffirmé que les défis sanitaires auxquels l'Afrique est confrontée appellent une solidarité accrue entre les États, une coopération régionale renforcée et une mobilisation continue des mécanismes continentaux de prévention, d'alerte et de réponse aux urgences sanitaires. La protection de la santé de nos populations demeure un impératif collectif et un pilier essentiel de la stabilité et du développement durable de notre continent. Je voudrais aussi par la même occasion annoncer ici ma descente très prochaine dans la province de l'Ituri, justement sur les lieux même de l'épidémie, pour faire le suivi personnellement. Mon engagement est total, comme vous pouvez l'imaginer.
Félix-Antoine Tshisekedi, notez que les chefs d'État congolais et burundais ont aussi abordé plusieurs autres sujets au cours de leur entretien bilatéral. Il s'agit notamment de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, des questions de réfugiés ainsi que de la consolidation des relations économiques entre les deux pays. La République démocratique du Congo, le Rwanda et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés viennent de s'accorder sur les nouvelles mesures pour faciliter le retour volontaire et sécuriser des réfugiés de part et d'autre de la frontière. C'était au cours d'une réunion lundi à Addis Abeba. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des efforts pour amener la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Le point avec Jude Mister Bilanda.
À l'issue de cette réunion ministérielle de haut niveau, les différentes parties ont salué les progrès déjà enregistrés dans les processus de retour des réfugiés. Selon les communiqués finaux sanctionnant cette rencontre, aujourd'hui, la RDC accueille près de 200 000 réfugiés rwandais, alors que le Rwanda héberge plus de 84 000 réfugiés congolais. Les trois parties ont réaffirmé leur engagement à garantir un retour volontaire sans pression et à accompagner les familles dans leur intégration. Depuis début 2025, plus de 8 000 les réfugiés rwandais sont rentrés chez eux à partir de la RDC, dont plus de 2300 les 6 derniers mois. Et l'objectif est d'atteindre 10 000 retours d'ici la fin de cette année. Les deux pays ont également trouvé un accord sur l'utilisation du poste frontalier Kamanyola-Bugarama pour permettre les retours de plus de 3600 réfugiés rwandais vivant actuellement dans plusieurs localités du Sud Kivu. Kinshasa s'est donc engagé à améliorer les voies de transit nécessaires à leur déplacement jusqu'à cette frontière. Cependant, le retour des réfugiés congolais vivant au Rwanda n'a pas encore commencé. Les autorités congolaises se sont engagées à identifier les zones prioritaires pour leur retour à partir d'octobre prochain en tenant compte de la situation sécuritaire sur le terrain.
Entre-temps, la situation humanitaire dans les territoires de Fizi, au Sud Kivu, continue de se détériorer jour après jour. Les forces vives locales qui tirent la sonnette d'alarme attribuent cette crise aux affrontements opposant les FARDC aux rebelles Twirwa Aneho et à leurs alliés dans la zone de Minembwe. Ces combats provoquent une rareté des vivres et des biens non alimentaires dans cette partie du Sud Kivu. Ronaldine Tibonera.
Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants paient les prix de l'insécurité dans les territoires de Fizi, déplore Maître Jacques Alimassi, président de la société civile locale. Alors que les combats s'intensifient à Minembwe, les opérateurs économiques et les citoyens se retrouvent privés de voies d'approvisionnement en produits essentiels, les exposant à une crise majeure.
Les routes d'entrée ou de sortie sont devenues bloquées et que donc les denrées de première nécessité ne sont pas visibles. Toute la population se concentre au niveau de Minembwe Centre. Il n'y a pas moyen de quitter Minembwe Centre pour traverser ou aller au-delà de Minembwe Centre parce que tout Minembwe est encerclé par les éléments de Néo et M23.
Cette situation est confirmée par l'administrateur du territoire de Fizi, Sami Badi Banga, qui en appelle à la cohésion sociale et à la cohabitation pacifique en ces moments difficiles. Il déplore également les attaques des drones menées par les rebelles contre les infrastructures civiles, parmi lesquelles les hôpitaux. Selon les estimations des OCHA, au 30 avril dernier, les territoires de Fizi comptaient près de 590 000 personnes déplacées avec des besoins croissants en vivres, abris, santé, protection, ainsi qu'en eau, hygiène et assainissement.
La dynamique d'acteurs pour les questions de la patrie d'INAP alerte sur la montée des cas d'insécurité, d'intolérance, des violences et de discours portant atteinte à la cohésion sociale dans le pays. Cela depuis le lancement des démarches liées à une possible révision de la Constitution. Dans un communiqué lundi, cette structure déplore que certains groupes d'individus se soient organisés pour mettre à rude épreuve la liberté d'autres personnes. Elle cite notamment les menaces proférées contre des membres de l'Église catholique, des acteurs de la société civile ainsi que des opposants. Leur
monarchie absolue étant le désaccord exprimé au projet d'une éventuelle révision de la Constitution. Sylvain Safari, responsable de cette structure, condamne ces actes. Il appelle chacun à faire preuve de sagesse et à respecter les principes démocratiques. Il est joint depuis Bukavu par Onéline Tibonera.
La DINAP rappelle que le dialogue, la tolérance et le respect mutuel sont indispensables à la cohésion nationale. Nous appelons le président de la République à user de sa sagesse et de son autorité morale pour favoriser l'apaisement du climat politique et renforcer l'unité nationale. La DINAP invite également les organisations de défense des droits humains, la société civile et les acteurs de la démocratie à rester vigilants afin de protéger les libertés fondamentales et l'espace démocratique dans notre pays. Nous rappelons en fait que l'unité nationale ne peut être construite par l'intimidation, la violence ou l'exclusion, mais par le dialogue, la justice, le respect des différences et la cohésion sociale.
L'UDP s'est saisi le parquet général près la Cour de cassation à Kinshasa pour dénoncer des individus usurpant l'identité du parti et de son aile Force du Progrès. Le secrétaire général Augustin Kabuya demande des poursuites judiciaires pour mettre fin aux actes de violence et aux débordements attribués à ces imposteurs. Une démarche qui, selon lui, vise à protéger l'image du parti présidentiel, à restaurer la discipline et à rappeler que la Force du Progrès ne doit pas servir de refuge pour les malfaiteurs et les criminels. On écoute à ce sujet Amissi Makutano, député national et président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Il est au micro de Guimaté.
C'était important pour l'UDPS de pouvoir prendre une décision de saisir la justice. Parce que le jet de l'opposition, comme vous le savez, ils veulent marcher avec le mensonge, des incriminations, de manière à se victimiser sous une appellation de la Force du Progrès, qui d'ailleurs, ce sont eux qui fomentent, ce sont eux qui organisent, ce sont eux qui sont en connivence avec les bandits, les délinquants. Quand ils sont débordés par leurs événements, parfois de ne pas donner l'argent à ces inciviques qui les invitent dans leurs manifestations, ils les collent au nom de l'UDPS. Et c'est important que l'Union pour la démocratie et le progrès social puissent saisir les instances habilitées pour que ces gens-là puissent aussi avoir l'opportunité de pouvoir doigter sur les gens qu'ils ont envie dans leurs manifestations en train de les violenter. Nous avons tous suivi comment ils se sont munis des machettes, mais malheureusement, avec même les déclarations des prélats, ils n'ont même pas fait allusion à des gens qui ont amené des machettes pour violenter nos services de sécurité. Et je crois que c'est une bonne chose et nous avons démontré à la face du monde que l'UDPS reste ce parti très engagé dans la dynamique de la démocratie et nous ne pouvons pas nous dérober à la règle.
La plainte de l'UDPS au parquet général vise en réalité la protection du groupe terroriste Force du Progrès. Il s'agit d'une fuite en avant, une distraction, une démagogie et une désorientation de l'opinion nationale et internationale au regard des violences commises par ces jeunes. C'est la réaction de Prince Epengé de Lamouka. Pour lui, c'est que le peuple attend de Kabuya, du vice-premier ministre de l'Intérieur et du procureur général. C'est la suppression, l'interdiction pure et simple, le démantèlement de plus de 300 bureaux de fortune des miliciens dans les carrefours de Kinshasa. On écoute Prince Epengé dans cet extrait que nous propose Guimaté.
La plainte déposée par l'IDPS au parquet général est un stratagème qui vise non seulement à couvrir les dégâts, les crimes et les violences perpétrées par la milice des Forces du Progrès, mais aussi c'est une logique de distraction et de désorientation de la communauté tant nationale qu'internationale. Eu égard aux pressions subies de la part de la communauté internationale, la Force du Progrès réprime systématiquement toutes les manifestations de l'opposition et de la société civile à la barbe et au nez des autorités civiles et militaires. Vouloir nous dire que l'UDPS ne reconnaît pas les agissements, c'est prendre le peuple pour des imbéciles. Il faut à tout prix, et c'est urgent, que cette milice soit interdit de toute activité pour préserver la paix sociale. Agir autrement de la part du procureur général, de la part de M. Kabuya et de la part des vêtements d'intérieur serait faire preuve de complicité.
Importée depuis 6 mois dans le cadre des travaux de construction des routes, une importante quantité de bitume reste bloquée à la douane de Matadi au Congo central. Le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, ACGT, a déploré cette situation hier mardi devant le ministre des Infrastructures lors d'une visite d'inspection sur la route de Kalambambouji. Il redoute que ce blocage puisse retarder plusieurs chantiers routiers à travers le pays, notamment celui des Kananga Kalambambouji au Kasaï central. Nico Nzaounzaou au téléphone de Blaise Ndongala.
Vous avez vu sur la route que nous avons arrêté les travaux d'asphaltage. Alors que c'est pendant la saison sèche que nous devons faire le maximum. Eh bien, nous ne le faisons pas. Pourquoi? Parce que les bitumes sont bloqués au port de Matadi. Ils sont bloqués à cause du dédouanement, alors que c'est un projet qui est exonéré. Donc, je sollicite à son excellence, monsieur le ministre, de pouvoir créer un couloir de manière à ce que tous les matériaux et matériels du programme sino-congolais soient traités en urgence, de manière à ce que nous puissions atteindre, n'est-ce pas, le but. Et notre but, pour le moment, en ce qui concerne Kalamambouji, c'est de terminer les travaux en 2027, mais 2026, c'est fait la moitié. Voilà les difficultés que nous avons. Sinon, d'une manière générale, le projet se porte très très bien. Et d'ailleurs, pour votre information, le projet Kananga Kalamambouji a été chez nous choisi comme projet pilote, de manière à ce qu'au moment où je vous parle, toutes les entreprises chinoises qui font l'asphalte vont se retrouver ici, parce que le projet ici, c'est le projet école. Ils vont venir voir la qualité du travail que nous faisons, parce qu'ailleurs, oui, on fait du bon travail, mais nous avons quelques... Et nous pensons que ce projet ici pourra, n'est-ce pas, mettre toutes les entreprises sur le même longueur d'onde.
À ce stade, 20 km sur les 230 de la route Kalamambouji sont déjà asphaltés et 20 autres actuellement en monocouche attendent l'asphaltage. En visite dans la région, le ministre John Banza a également visité le site des travaux du nouveau stade de Kananga en construction à Kanyuka.
Actualité internationale.
Amnesty International a condamné hier la décision de l'Union européenne d'accroître sa coopération avec la Libye pour freiner les flux migratoires, alors même que la répression contre les migrants s'intensifie dans le pays.
L'invité.
Connaître son statut pour mieux protéger l'avenir, c'est le sens de la campagne de dépistage volontaire de la drépanocytose, anémie SS, lancée par le dispensaire de l'Institut supérieur pédagogique ISP Kisangani. Objectif, briser les tabous autour de cette maladie génétique et sensibiliser la jeunesse avant l'engagement de toute une vie. Pour en parler, nous recevons Dr Rachel Mukangi, médecin traitant au sein de cette structure médicale. Elle s'entretient avec Jacques Mkonkole.
Docteur Rachel Mukangi, bonjour.
Bonjour.
Docteur, vous avez lancé ici, à l'ISP, une campagne de dépistage volontaire de l'anémie SS. Pourquoi avoir choisi de démarrer spécifiquement au sein d'une institution universitaire?
Au départ, nous avons organisé une journée de lutte contre la drépanocytose le 19 juin 2026, à l'occasion même de la même journée qui est la journée dédiée à la drépanocytose du point de vue mondial. C'est ainsi que nous nous sommes dit, au lieu de se limiter à une simple sensibilisation, c'est mieux de passer à la pratique. Et cette pratique était d'inviter les étudiants qui ont été sensibilisés les jours même de la conférence à faire le dépistage gratuit de la drépanocytose, puisque la connaissance de son statut hémoglobinique permet directement de prévenir cette drépanocytose en évitant le partenaire qui peut prédisposer la personne à avoir des naissances des enfants porteurs de l'allèle SS.
En quoi le dépistage avant de s'engager en couple est-il la meilleure arme de prévention pour les jeunes?
Pour mieux prévenir la drépanocytose chez les jeunes, je pense que le dépistage dit très drépanocytaire chez ces derniers est très important, parce que si le jeune est conscient et qu'il sait qu'il est déjà porteur de cet allèle S, c'est difficile qu'il puisse s'engager avec une autre personne, avec une femme ou un homme porteur de cet allèle S, sachant que c'est un risque qu'il est en train de faire pour sa descendance, pour les générations futures. Une fois que ce jeune qui est conscient de son statut hémoglobinique s'engager avec une autre personne porteuse de cet allèle S, ça prédisposerait la descendance à faire des enfants SS, ce qui n'est pas bon pour la communauté, parce que les enfants SS, non seulement ce sont des enfants qui sont très malades, mais également ça déstabilise un peu les ressources financières au sein de la famille.
Après l'ISP Kisangani, est-ce que vous allez étendre cette campagne vers d'autres secteurs de la population?
On aimerait bien étendre cette campagne vers d'autres secteurs de la population, mais malheureusement, nos moyens sont limités. Mais s'il y a un financement extérieur qui nous boostait pour qu'on puisse étendre cette campagne, même pour toute la ville de Kisangani, on sera disponible pour faire ces dépistages, vu que dans notre structure, nous avons des infirmiers, nous avons des laborantins, nous avons des médecins qui ont de l'expérience et qui peuvent facilement participer à cette campagne de dépistage.
Comment le public réagit-il pendant le dépistage?
Déjà, pendant le dépistage, les personnes qui ont de maladies drépanocytaires dans leur famille sont stressées puisqu'elles se disent « Est-ce que je ne suis pas drépanocytaire ?» Donc, ça dépend de la situation familiale. Pour celles qui n'ont pas de drépanocytaires dans leur famille, elles passent les examens calmement et à la fin, vous vous rendez compte qu'ils sont AA ou soit AS, porteurs asymptomatiques. Mais pour ceux qui ont de malades dans leur famille, ils sont très stressés parce que c'est possible qu'ils soient aussi SS ou AS.
Est-ce qu'il y a beaucoup de cas pathologiques que vous avez détectés pendant cette campagne?
Jusque-là, nous avons détecté au moins une quinzaine de cas où il y a des porteurs asymptomatiques, c'est-à-dire des AS, mais des SS comme tels, pas encore. Donc jusqu'à présent, au sein de l'Institut supérieur pédagogique de Kisangani, il y a quelques cas de porteurs asymptomatiques. Les jeunes là qui sont porteurs, on les a conscientisés, on leur a dit de se méfier, de s'engager avec des personnes qui sont AS pour prévenir la drépanocytose dans leur famille. Et elles ont accepté l'information. Elles se sont dit que ça leur permet de prendre des dispositions pour leur génération future et ils ont encouragé l'initiative.
Concrètement, pour quelqu'un qui nous écoute et qui hésite encore, où peut-on se faire dépister aujourd'hui et combien de temps cela prend-il?
Celui qui hésite encore, ils doivent savoir que la drépanocytose est réelle, elle existe, on n'en fait plus un tabou, on en parle. C'est mieux toujours de connaître son statut hémoglobinique. Parce qu'en connaissant son statut hémoglobinique, on ne se protège pas soi-même, on protège toute une génération future. Je pense que ces personnes-là doivent quitter cette crainte et venir se faire dépister ici à l'ISP Kisangani quand le dépistage est encore gratuit. Mais à un certain moment, on pourra avoir une rupture des stocks. Il y a encore les laboratoires en périphérie où on fait l'électrophorèse de l'hémoglobine. Ils peuvent toutefois y passer pour ces genres d'examens.
Docteur Rachel, merci.
Merci beaucoup.
Et sa fin de ce journal préparé par Jude Bilanda, Alain Goy à la mise en onde. Merci de votre attention. Bonne journée.